RNV Podcast.
Sylvain Grenberg, bonjour.
Bonjour.
Mais quel plaisir de te voir au Salon du Livre de Genève.
Ben, c'est un plaisir pour moi, c'est une première fois aussi, donc c'est une belle découverte.
Est-ce que vous êtes déjà venu souvent dédicacer en Suisse ?
Absolument pas, je pense que je suis venu dédicacer une seule fois auparavant. C'était pour la sortie du premier album des Colocataires chez Dupuis avec Christopher, donc ça devait être un salon à Lausanne. Et ça faisait ensuite 20 ans d'interruption.
Ah oui.
Donc je suis content d'être de retour.
Et là, une grande sortie, j'ai envie vraiment de dire une grande sortie en bande dessinée pour tous les fans en fait, de comics. C'est une bande dessinée en fait Wonder Woman avec Harley Quinn.
Oui, tout à fait. Un récit original qu'on a publié en septembre de l'année dernière avec Mickey Monclos au dessin. Puis une très belle opportunité de travailler sur deux personnages iconiques de la pop culture.
Mais c'est vrai que c'est génial parce qu'en même temps, on vous connaît avec tous vos scénarios, mais on parle des Colocataires. Il y a aussi la grande sortie de Capitaine Flamme en bande dessinée. On a envie de dire qu'en fait, vous reprenez tous les grandes séries, en même temps, tous vos réussis. C'est quoi la clé du succès ?
Alors, j'ai pas de formule magique à donner. Je travaille régulièrement, puis avec passion, depuis 25 ans. Donc souvent ce que je dis c'est que le talent n'existe pas, ce qu'il y a c'est de la passion, du travail, de l'abnégation, de la passion, du travail. Et j'ai la chance de faire ce qui me plaît, donc l'écriture. Et puis il y a des opportunités comme ça qui arrivent. Donc pour Capitaine Flamme, c'est moi qui avais fait la demande à Christelle Willens, qui est la directrice générale de Cana. Et je l'avais fait à une époque où je ne pensais pas avoir de réponse positive, non pas par rapport au projet en lui-même, parce que je pensais que ça n'allait pas être possible. Mais il se trouve que quand j'ai envoyé mon mail, je crois que Christelle Willens a répondu dans la journée le lendemain, parce qu'ils étaient en train de créer cette nouvelle collection Cana Classique, qui n'était pas encore sortie. Et donc pour Capitaine Flamme, elle m'a répondu, c'est une très bonne idée, ça nous intéresse, parce qu'on est en train de préparer une collection qui va tout à fait dans ce sens. Donc là, c'était l'alignement des étoiles, on va dire. Et puis l'album après quelques années est paru avec l'excellent Alexis Talon. Et pour Wonder Woman et Harley Quinn, là c'est complètement différent, puisque là c'est DC et Urban qui m'ont posé la question, est-ce que j'étais intéressé pour faire un récit inédit. Et j'avais carte blanche dans le choix du récit et des personnages. Ça aussi c'est une très belle opportunité. Et donc j'ai proposé ce récit où Wonder Woman rencontre Harley Quinn. Ce sont deux personnages qu'on ne voit pas souvent ensemble parce qu'elles n'évoluent pas dans les mêmes univers, dans le lore de DC. Et ça a plu à Urban Comics, ça a plu à DC aux États-Unis. Et du coup, on a pu démarrer le projet.
Mais c'est vrai que c'est grandiose de dire on est scénariste européen et d'un seul coup, on travaille sur les héros les plus connus au monde.
Ça vient en fait de la culture qu'on partage tout. Moi, je suis né en 1971. Donc on est une des premières générations à avoir grandi avec à la fois la culture franco-belge en bande dessinée, avec la culture japonaise, avec les premiers animés qui arrivent sur les télévisions françaises à la fin des années 70, avec Goldorak, Albator, Capitaine Flamme. Et puis le comics, moi j'ai grandi avec les éditions Lug en France. Donc un premier album de BD que j'ai acheté, en réalité c'est pas un album de BD, c'est un magazine en kiosque, c'était un numéro de Titan.
Ah, c'était classe.
Pendant l'automne 1979, j'aurais pu vous donner le numéro. L'intitulé du numéro, et j'ai grandi avec les comics, les super-héros, que ce soit de Marvel ou DC, donc c'est des cultures qui nous ont nourris, qui ont nourri notre travail aussi en tant que scénariste de bande dessinée franco-belge au premier abord, mais j'ai toujours eu une influence, que ce soit manga ou comics, dans mon travail.
Mais c'est vrai que ce qui est génial dans cette nouvelle bande dessinée, Wonder Woman rencontre Harley Quinn, c'est qu'en même temps, la trame c'est d'un seul coup, c'est Harley Quinn qui arrive dans le monde de Wonder Woman. Et en même temps, vous avez dû vous faire plaisir parce que vous parlez de tous ces héros. C'est-à-dire, d'un coup, il y aura du Batman, il y a Joker. Et c'est vrai que je me suis dit, quand on est scénariste, on va se faire plaisir parce que ça ne va pas être évident d'écrire avec tous ces grands personnages-là.
Disons que ça s'est intégré dans la trame. Et c'est vrai que c'était une belle opportunité, mais enfin, ce n'est pas quelque chose d'artificiel. Hein, pour résumer le projet, c'est Harley Quinn qui veut se sortir de cette relation toxique dans laquelle elle est... Enfermé avec le Joker, ça c'est quelque chose sur lequel j'ai voulu aussi revenir, parce que le Joker, depuis quelques années, on a parfois tendance à le voir comme un personnage un peu cool, alors que c'est un psychopathe manipulateur. Et donc Harley Quinn, qui est sa compagne, est effectivement une personne qui est victime d'abus physiques et psychologiques. Et là, La première chose qu'elle va devoir faire en tant que super-héroïne, c'est de trouver le courage de demander de l'aide pour s'en sortir, parce que c'est souvent ce qui est le plus difficile pour des personnes qui sont dans cette situation-là, c'est d'oser demander de l'aide, et cette aide, elle la demande à la personne qui, dans l'univers d'ici, est la plus à même de lui apporter et d'accepter, puisque c'est à la fois une déesse avec des pouvoirs immenses, mais aussi quelqu'un qui a basé son code moral sur l'empathie, et c'est Diana, c'est Wonder Woman. Et donc, elle se rend sur Themyscira, l'île des Amazones, pour demander de l'aide à un moment donné où elle sent que physiquement, psychologiquement, elle va s'effondrer, probablement mourir, si elle reste dans le cadre de cette relation-là. Et ensuite, le fait qu'on voit d'autres personnages iconiques apparaître dans cet album, ben, tout est lié en fait à ce récit-là. Et c'est pareil, on y voit notamment Batman, Robin et le Joker, mais c'est parce que justement c'est une scène de flashback qui constitue la scène pivot où Harley Quinn se rend compte que si elle se sort pas de cette situation, elle va mourir.
Mais c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'en même temps c'est un double message au moment de dessiner. C'est-à-dire c'est de pas se laisser faire. Est-ce que vous avez travaillé ce scénario par rapport à ça ou bien c'est venu après?
Quand j'ai commencé à réfléchir à cette histoire-là, ce qui est venu d'abord, c'est Wonder Woman, parce que c'est mon personnage favori dans l'univers de DC. Puis ensuite, Harley Quinn est venu assez rapidement. Et comme ce projet a démarré quand même il y a quelques années, c'était le moment où MeToo commençait à monter en tant que mouvement sociétal. Et c'est comme ça que les choses se sont imbriquées dans ma tête, en voyant ces témoignages de femmes victimes qui sont prises dans un étau dans lequel parfois elles n'arrivent pas à se sortir ou très difficilement, des femmes qu'on ne croit pas quand elles parlent. Et je me suis dit que ça pouvait être vraiment des thématiques que je pouvais insérer dans cette relation entre Harley Quinn et Wonder Woman. Donc c'est comme ça que ça s'est élaboré. C'était vraiment lié à l'actualité de l'époque et qui malheureusement reste toujours l'actualité d'aujourd'hui.
Et en fait, dans cette bande dessinée, on a l'impression que Harley Quinn va devenir gentille. C'est ça qui est impressionnant parce que d'un seul coup, elle s'adoucit. Et est-ce qu'il y aura un deuxième album ou bien comment ça va se passer? Est-ce que d'un seul coup, il y aura un sursaut d'Harley Quinn?
Alors c'est prévu comme un récit complet, alors il y a une fin ouverte que je ne vais pas spoiler.
Oui, justement, oui.
Est-ce qu'il y aura un autre album? C'est encore trop tôt pour le dire. En fait, l'album a plutôt bien marché au niveau vente, il commence à être vendu à l'étranger, on attend qu'il soit publié aux États-Unis. Il y a eu des très bons retours, et en général un très bon retour à la fois du côté de la presse mais aussi de la communauté comics. Donc on attend de voir, on sait qu'Urban serait assez partant, ensuite il faut voir ce qui se passe du côté de DC, et DC c'est les États-Unis en ce moment, les États-Unis c'est un peu compliqué, il y a Warner, DC appartient au groupe Warner qui est en train d'être acheté par la Paramount, donc c'est pour l'instant c'est en attente, mais ça n'a pas de rapport du tout avec notre projet ou d'éventuels futurs projets, donc on verra. Ça peut se lire comme un récit complet, mais c'est vrai qu'il y a une fin ouverte et que nous on a, dans nos bagages, on a de quoi faire un autre récit effectivement.
Mais c'est vrai que quand je suis plongé dans cette bande dessinée, j'étais comme dans un grand film. C'est-à-dire aussi bien découpage, dialogue, aussi bien dessin. Même là, on peut dire que la couverture de l'album, c'est une affiche de film.
Oui, il y a une approche audiovisuelle. Enfin, Mickey en parlerait mieux que moi parce que c'est son domaine. Mais c'est un très très bon metteur en scène. Et visuellement, ça se voit. Ça se voit qu'il maîtrise parfaitement ce type d'univers-là, même si c'est son premier pas dans les super-héros, et moi aussi, par ailleurs, même si j'ai fait du comics avant, oui, avec Superman Turbo, chez Glénat, ou avec Mika Andorfo et Underworld, Under York, pardon. Mais c'est la première fois qu'on faisait une histoire de super-héros, mais on a grandi avec.
Oui.
Donc c'est des codes qu'il a fallu s'approprier, mais qui pour moi sont venus de manière tout à fait naturelle en fait, parce que ça m'avait déjà influencé. Il y a des choses qui sont très différentes, je dirais, c'est notamment dans les scènes d'action, avec cette particularité au niveau des dialogues de super-héros, c'est que souvent quand ils se battent, ils parlent beaucoup.
Oui.
Et ça, on trouve pas vraiment ça en franco-belge, parce qu'en soi, c'est pas tellement réaliste, mais ça n'est pas partie du côté fantasy des super-héros. Et donc ça, c'était aussi assez grisant de mettre en scène ces batailles épiques parsemé de dialogue. Et ça, c'est vraiment un découpage à la fois scénaristique et graphique qui est très propre aux super-héros américains.
Et ma dernière question, sur quel scénario travaillez-vous maintenant?
Alors, je travaille sur plusieurs scénarios, donc je peux livrer quelques exclusivités en fin de compte. Bon, il y a Orbital tome 10, mais ça, on s'en doute, pour terminer le dernier diptyque. Je travaille sur le tome 2 du Capitaine Flamme qui sortira en fin d'année, parce qu'on a la chance de pouvoir continuer l'aventure. Je travaille sur un second cycle de On Mars avec Grun aux éditions Daniel Magen, et je travaille sur d'autres projets avec d'autres dessinateurs chez plusieurs éditeurs différents. dont je ne peux pas encore parler, où il est un peu tôt pour les nommer, mais il y a plein de choses qui arrivent.
Donc vous ne vous reposez jamais?
Bah, j'essaye de prendre des plages de repos comme tout le monde, en fait. C'est pour pouvoir réfléchir, écrire, il faut quand même être en bonne santé, et ça inclut du repos. Mais c'est vrai que je travaille assez régulièrement.
Alors Sylvain Runberg, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé du temps.
Et merci de m'avoir accueilli, ce fut un plaisir.
Et à tout bientôt, merci.
Et puis à bientôt, j'espère. Au revoir.
RNV Podcast.